Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur le 92.1 radiocampus.be. Alors c'est Isabelle, d'habitude on s'entendait, on se parlait, on se rencontrait le jeudi de fin d'après-midi, la fin d'après-midi du jeudi. Et ben cette année ça change, c'est le mardi midi, donc je dois plus dire bonjour, bonsoir, hein. Sauf pour ceux qui écoutent en différé, ça arrive aussi sur radiocampus.be. Et aujourd'hui on fait sa rentrée théâtrale et on va du côté de Liège, bah oui c'est comme ça, on va du côté de Liège aujourd'hui pour parler du Factory Festival, qui est un festival, une plateforme Factory, hein, dédiée aux artistes émergents et qui se déroule en trois. Enfin, il y a trois parties. Il y a les résidences, il y a des compagnonnages et puis il y a ce festival qui présente des créations, des travaux en cours et des présentations de projets également. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en présence de deux personnes qui sont pour l'une, Damien Trapletti, porteur de la création de ce festival Factory, et Tiffaine Van der Hagen, c'est ça ?
Van der Hagen,
qui, elle, présente un projet. Et on va peut-être commencer par se présenter, Damien et Tiffaine, si vous le voulez bien, et on parlera du festival Factory juste après, mais d'abord un petit mot. Alors, évidemment, ils ne veulent pas, il y en a.
Ah, si.
Ni l'un ni l'autre.
Damien, j'ai 40 ans, je fais du théâtre depuis 20 ans, j'ai fait le conservatoire de Liège. Et c'est mon premier spectacle en solo. J'ai fait plusieurs spectacles avant en écriture collective, c'est-à-dire en groupe, quoi, avec des groupes d'acteurs, d'actrices. Et j'ai participé à des créations d'autres pour des metteurs en scène, des metteuses en scène, comme Françoise Bloch, Pietro Varasso et d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, j'avais besoin, envie, enfin, la situation faisait que je pouvais faire un spectacle, mon premier spectacle, et j'ai choisi de faire un solo.
Qui s'appelle « Et pourtant, le soleil se lève ».
Ouais, « Et pourtant, le soleil se lève ».
Voilà, merci. Tiffaine, à ton tour.
Mais oui, bonjour. Donc moi, c'est Tiffaine, je suis comédienne. Et donc moi, je viens présenter le projet « Qui sème la colère », qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet en fait qui fait écho à mon parcours. Parce que je suis comédienne, mais j'ai aussi un diplôme d'ingénieur agronome. J'ai travaillé dans le domaine agricole. J'étais dans un syndicat, dans une association. Et j'ai toujours, malgré que j'ai décidé de faire carrière dans l'artistique, j'ai toujours gardé un pied dans le secteur agricole et j'avais vraiment envie de faire un projet autour de ça. Et voilà, c'était l'occasion. Donc, premier projet, première fois à la mise en scène.
Bah, merci beaucoup, Tiffaine. Et comme j'ai dit aux éditoristes, on va un petit peu présenter Factory et le festival Factory, et Factory en général, qui donc est un accompagnement des artistes émergents, ou en tout cas des projets émergents d'artistes confirmés. Hein. Toi, tu parlais, Damien, que tu as déjà travaillé avec d'autres metteurs en scène, avec des collectifs, etc. Et que c'est ton premier seul en scène. Donc on peut dire que c'est pour ça que c'est émergent.
Oui,
tu n'es pas un artiste émergent, c'est un artiste.
Non, mais à ce poste-là, je suis émergent,
voilà,
si tu veux.
Voilà.
C'est ça. C'est, vu que c'est mon premier, ben, on considère que, ben, comme toute personne qui fait sa première fois, ben, il ne sait pas, et puis il apprend en faisant, et puis on fait des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, c'est pour ça que, oui, effectivement, je suis dans la case émergent.
Parce que c'est aussi important à dire, comme je l'ai dit au début de l'émission, que vous êtes à deux stades différents, et... On le précise, et je précise que c'est Tiffaine en fait qui m'a dit, est-ce que c'est important de dire à quel hors micro, est-ce que c'est important ? Ben oui, c'est important parce qu'il y a justement ces trois formes finalement de spectacle. Donc le spectacle en création qui est un spectacle à part entière comme toi tu présentes, Damien, des formes en cours, et puis des présentations vraiment de projets comme toi tu fais, Tiffaine.
Ouais, c'est ça. Moi, nous, on est vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé la création.
Et donc pour ceux qui connaissent moins les coulisses du théâtre, ces coulisses de production, de création, etc., est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, raconter ce qu'est pour vous cet accompagnement finalement que propose Factory, qui, je ne l'ai pas encore dit, se déroule du 7 au 12 septembre, donc c'est incessamment sous peu, dans 6 jours exactement.
Oui.
Et donc voilà, je ne sais pas qui a envie de prendre la parole sur ce festival qui existe depuis 2015, si je ne...
Oui, je crois que c'est juste.
Oui, c'est possible.
je pense, et qui est quelque chose qui émane de, du théâtre de Liège et de la Chaufferie Acte 1.
Du Festival de Liège.
Du Festival de Liège, ouais. Et de la Chaufferie Acte 1.
Ouais.
Voilà. Bah, peut-être resituer.
Ouais. Bah, du coup, nous, on est vraiment, donc, comme je disais au début, donc, nous, c'est vraiment une présentation de projet. Donc, on va, avec le public, fantasmer sur un potentiel projet de création, sur en tout cas ce qu'on imagine de la création. Et nous, on vient là parce qu'on a besoin, évidemment, de plus de soutien en production, en accueil de résidence, en préachat de représentation pour pouvoir déposer un projet d'aide à la création auprès de la Fédération Olinie Bruxelles. Et donc, voilà, on vient pour essayer de trouver du soutien auprès des programmateurs, des programmatrices, des directeurs, directrices de théâtre, des centres culturels, et aussi pour proposer au public et avoir un retour aussi de, voilà, de avec quoi ça leur fait écho et avoir aussi un premier... une première forme qui pourrait exister et voir là où ça plaît, là où ça coince. Voilà, c'est vraiment aussi un échange qu'on a envie d'avoir avec les personnes qui viennent voir.
Et très concrètement, donc c'est une présentation de projet. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une forme théâtralisée ou c'est vraiment une causerie, si on peut dire ?
Alors, je pense que ça dépend des projets. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà un petit peu commencé et qui pourraient avoir une micro-forme présentée. Nous, on est vraiment... ce sera une causerie, comme on dit. Okay. Mais une causerie chouette. Voilà.
Et donc, ça veut dire qu'il y a une présentation... Oui. Oui. Peut-être le...
Il n'y aura pas de PowerPoint, pas... quoi.
Oui. Ah bon ?
Non,
ah,
il n'y aura pas de PowerPoint.
Zut. Je pensais que l'agronome en toi allait...
Oui, non. Elle est restée loin.
En coulisses. Mais donc, et comment se fait l'échange avec le public, du coup ? Est-ce qu'il y a un temps... Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, qui donc se propose à Liège, à la caserne, c'est à la caserne Fonck toujours.
Hein. Ouais.
Donc comment ça se fait ? Le public, qui est un tout public, vient, décide de venir voir ta présentation de projet parce que le thème voilà, accroche, etc. Et puis après la présentation, il y a un échange qui se fait avec le public.
C'est plutôt des moments pas prévus, mais en tout cas, c'est très informel.
Au bar de la caserne.
Voilà,
quoi.
C'est très informel, mais en fait, on est là, on reste pendant la soirée. Et donc, voilà, c'est chouette s'il y a des gens qui viennent nous rencontrer et échanger avec nous. C'est vraiment un plus.
Et c'est aussi ouvert aux professionnels. Donc, ce que tu le disais, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins, hein, ouais. Qu'un spectacle, c'est pas juste des copains comédiens qui se mettent ensemble et qui trouvent que c'est très chouette de travailler sur un texte de Molière ou sur un texte qu'ils auraient fait eux-mêmes. Non, ça demande tout un travail absolument invisible, de production, de diffusion, etc., de présentation de projet pour avoir des sous, pour payer les comédiens, pour payer les décors. Enfin, ça a l'air très, très, très bas, ce que je dis, mais c'est une réalité du métier de comédien, de metteur en scène, voilà, de personnes qui font les arts vivants. Et donc, c'est aussi un échange avec ces personnes-là que vous avez en amont et que vous rencontrez. Toi, tu parlais du fait que tu es effectivement comédienne, mais que tu as aussi un background et donc une vie professionnelle qui n'était pas dans le théâtre nécessairement. Donc, ça permet aussi d'avoir cet échange avec des gens qui ne te connaissent pas nécessairement encore.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une belle vitrine que nous offre le Festival Factory. Pour faire connaître notre projet et voilà, et pour aussi c'est une sorte de challenge aussi, hein, de comme ça en 25 minutes pitcher un projet, ça nous permet aussi de réfléchir, de concrétiser les choses, donc c'est vraiment un super exercice, donc merci Festival.
Et est-ce que vous avez été pour le projet déjà accompagné par Factory, par les résidences ou le compagnonnage, ou pas du tout? C'est juste, vous avez été pris sur dossier, ou comment ça s'est passé très concrètement?
C'est sur dossier.
C'est sur dossier. Après, nous, on est aussi soutenus pour des résidences, mais qui viennent après le festival.
Par Factory
également ? Ouais, par Factory. On aura deux fois une semaine au Théâtre Varia, financé par la plateforme Factory.
Ok. Et toi, Damien ?
Oui, moi, j'ai été soutenu aussi en résidence par Factory.
Auparavant, alors ?
Oui, parce que là, moi, j'arrive à la fin.
Oui, c'est ça. T'as présenté ton projet, puis t'as présenté...
J'ai présenté une étape. Ouais. J'ai pas fait de présentation de projet, j'ai montré une étape. Qu'un morceau, quoi, un début, disons. J'ai montré une demi-heure, il y a 2 ans. Et puis après, ça m'a permis d'engager le processus dont tu as parlé juste avant, de production, de rendre l'appel d'aide à... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Aide à projet, la création.
Aide à la création à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que j'ai reçu et qui m'a permis de produire, de pouvoir payer les gens, en gros.
Oui. C'est pas mal. Et même si t'es seul en scène, il y a des gens à payer.
Eh oui, les seuls en scène ne sont pas des seuls en scène. Et non, les seuls en scène cachent, l'individu sur le plateau cache au moins entre 2 et 4 personnes en moyenne. Moi, c'est plutôt 4.
Moi, oui, j'allais dire concrètement dans ton projet.
Il y a
un scénographe,
il y a Nicolas Tagawa qui signe la scénographie, il y a Bastien Montes et Sarah Testa qui m'accompagnent tout le temps, c'est-à-dire moi je travaille par improvisation, donc c'est un projet d'acteur, donc c'est un projet qu'un acteur a réfléchi et j'ai voulu que ça reste ça, c'est-à-dire ne pas me prendre tout à coup pour un metteur en scène ou pour quelque chose que je ne suis pas et dont je n'ai pas l'expérience, donc j'ai travaillé sur le plateau en impro, avec mes matériaux de départ, quoi, avec mes questions de départ, et j'avance comme ça. Donc ça met beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Et donc,
Regard extérieur.
Voilà, eux, son regard extérieur, il m'aide à constituer la dramaturgie, c'est-à-dire le schéma de la narration. A va à B, et puis B va à C. Et l'écriture aussi. Ils ont collaboré à l'écriture, là encore dernièrement, sur des corrections de texte, etc. On continue encore on va continuer jusqu'au bout. On n'est pas encore tout à fait prêt.
C'est la semaine prochaine.
Oui, c'est lundi prochain. Tout va bien.
Il y a encore un peu de temps. C'est dans les derniers moments qu'on...
le diable se cache dans les détails, tu sais.
Alors, ce que je propose, c'est de faire une petite pause musicale. Et j'avais envie de commencer par un chant venu de la terre, d'unité Mau Mau, est-ce que je prononce bien ?
Je pense que c'est ça.
Est-ce que tu as envie d'en parler avant qu'on... Et qui est un choix à toi, Tiffaine ? C'est parce que je demande toujours des choix musicaux qui représentent la personne qui vient parler au micro ou son projet. Là, je pense que ça parle aussi du projet. Ouais. Est-ce que tu peux en parler brièvement ?
Ouais. Mais je peux peut-être dire que c'est une musique que j'ai découverte en écoutant les podcasts d'investigation d'Inès Leroux, qui est l'autrice des Algues Vertes et Champ de Bataille, l'histoire enfouie du remembrement, qui sont du super BD d'investigation, donc je conseille vivement de lire. Et donc elle a fait tout un travail, en fait, une série de podcasts qui s'appelle Journal Breton. Elle va aller s'installer en Bretagne, dans un petit village, et elle va aller interroger tous des gens qui travaillent autour de l'agro-industrie, que ce soit des salariés dans les abattoirs ou dans des usines de traitement des pesticides, que ce soit les agriculteurs. Elle va aller vraiment à travers tous les acteurs de la chaîne et elle va les interroger. Et c'est une musique qui passe dans un des podcasts et voilà, ça m'a parlé.
D'accord, ben on va tout de suite l'écouter et puis on parlera des projets, enfin, de ton projet d'abord et puis du projet de Damien ensuite, du contenu des projets. Eh bien, un chant venu de la terre d'unité Mao Mao.
Qu'est-ce que vous trouvez le plus important dans la vie ?
Le plus important ? Être libre.
À sa vie, à son nom. Le temps a passé sur les larmes dans rangée-là. Quand le cheval de l'amour est parti cette année-là.
Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Pas un geste, pas un regard attendri pour le décor. Quand la science sert le profit, la technique fait des merveilles. Les chansons productives, mais tant pis pour les abeilles.
Le temps a passé sur le bon sens d'Angela. Et les hypermarchés sur les jours de marché. La mondialisation sur le gré saisonnier. Et l'humeur des marchés sur son ouvrage aux libertés.
Un cri, un chant.
Tous les chants, c'était comme chacun, c'était comme un vers du poème.
Oui, comme un oui. Jardin.
Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 chants dans le même chant. Allez chercher leur nom maintenant parmi tout ça.
Ce sont des enfants perdus, un
oui,
peu.
Oui, ma foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi.
Un cri, un chant.
Et voilà, c'était donc Unité Mao Mao, un chant venu de la terre, ton choix à toi, Tiphaine. Donc je rappelle qu'on est ici en studio avec Tiphaine et Damien, qui présentent chacun une étape différente de leur projet théâtral à Factory, au Festival Factory, qui commencera le 7 septembre prochain, donc lundi prochain, à Liège, à la caserne Funk. Le choix musical donc qui était le tien a un lien évidemment avec ton spectacle, enfin le spectacle dont tu vas présenter le projet, qui sème la colère. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Donc tu disais en introduction que tu étais comédienne, mais aussi ingénieure agronome, et que tu avais vraiment un pied dans chaque pratique.
Ouais, ouais, voilà. Tout à fait. Bah donc, Qui sème la colère, c'est une fiction qui est basée sur un dîner qui a eu lieu le 5 avril 1938 entre John Steinbeck et Sanora Babb. Alors, je vais revenir un peu en arrière, donc la genèse du projet. Moi, je lis Les raisins de la colère de John Steinbeck, et je suis absolument abasourdie par ce roman qui est un chef-d'œuvre, qui raconte, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc Les raisins de la colère, ça se passe durant la Grande Dépression aux États-Unis en 1938. C'est une période vraiment noire de l'histoire où... les familles paysannes de la région des Hautes Plaines sont poussées à partir, à abandonner leurs terres. Il y a eu le crash boursier de 1929, il y a des tempêtes de poussière qu'on appelle le Dust Bowl, et des années de sécheresse qui font que les récoltes sont complètement ravagées. Donc les familles paysannes ne savent plus vendre leurs produits, les banques refusent de leur prêter de l'argent. Et en plus, c'est l'arrivée des tracteurs, et il faut agrandir les fermes, et on n'a plus besoin d'autant de main-d'œuvre. Donc, ils sont vraiment expropriés de leurs terres, et ils prennent la route, et ils partent vers la Californie, où on leur promet une vie meilleure. Et donc,
on leur promet très concrètement, je pense qu'il y avait vraiment pas de quelque chose de très concret en Californie.
Tout à fait,
Oui.
Il y a des prospectus, voilà, qui sont distribués, où on leur dit, on a besoin de main-d'œuvre, venez ici. Il suffira de tendre le bras pour cueillir une orange, il y a de l'abondance, voilà. Et puis, malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais donc, moi, je commence à m'intéresser à ce roman, et aussi un peu tout autour de l'écriture. Je découvre qu'il y a des fermiers en Californie qui brûlent le roman à la sortie en librairie. Je découvre que John Steinbeck est surveillé par le FBI après la sortie du roman parce qu'il est considéré comme un auteur subversif et dangereux. Je découvre aussi Sanora Babb, qui est l'autrice d'un roman qui s'appelle Eux, dont les noms sont inconnus, qui est publié en 2004, pourtant qui a été écrit en 1939. Pourquoi ? Parce que quand elle envoie son manuscrit à son éditeur en 1939, Les raisins de la colère viennent de sortir. C'est un énorme succès librairie. Et donc l'éditeur lui dit désolé, mais on va pas sortir un roman, c'est trop proche, ton roman, c'est trop proche de la thématique des raisins de la colère. Et en fait, un an avant ça, elle a rencontré durant un dîner John Steinbeck. Et John Steinbeck reçoit les notes de Sanora Babb, parce que Sanora Babb, elle fait tout un travail de terrain. Elle va s'investir auprès des familles, elle va les aider pendant 8 mois. Elle prend des notes détaillées, elle fait des centaines d'interviews. Et en fait, pour son roman à elle. Et John Steinbeck a accès à ces notes et va les utiliser pour Les raisins de la colère et ne va jamais mentionner le travail de Sanora Babb. Et donc, on a commencé à jouer avec l'idée et ça nous a plu de recréer en fait ce dîner pour aussi... finalement de parler de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, mais qui pourtant ont envie à travers leurs œuvres de représenter ce que vivent les agriculteurs et les agricultrices. Et moi, ça m'intéresse particulièrement et ça fait écho à mon parcours parce que je me suis toujours posé la question de qui je suis pour parler finalement de la parole des agriculteurs et des agricultrices. J'ai cette phrase de Pierre Bourdieu qui me hante, qui sont « les classes populaires ne parlent pas, elles sont parlées ». Et pour moi, c'est ça ce qui se passe aussi avec la classe agricole, c'est qu'en fait, il y a énormément de personnes qui parlent à leur place. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie aussi de faire quelque chose de différent de ce qui a déjà été créé sur l'agriculture. Et donc, je me suis dit, si je mets en scène des personnes qui finalement me ressemblent, c'est-à-dire des artistes qui, à travers leur œuvre, veulent représenter les conditions de vie des agriculteurs, je peux créer autour de ça de l'autodérision, pour justement interroger notre propre regard sur l'agriculture, parler aussi des clichés qu'on a, des contradictions, et par effet miroir que le public aussi puisse peut-être briser des certitudes qu'ils ont, ou en tout cas se remettre en question, pousser plus loin vraiment la réflexion. Donc ce sera une écriture de plateau où il y aura 4 personnes.
Pour ceux qui ne sont pas
habitués à parler
des arts vivants, une écriture de plateau, est-ce que tu peux résumer brièvement
ce que c'est ? Donc c'est-à-dire que en fait c'est un peu sur base d'improvisation ou de certaines thématiques, on va demander aux comédiens de faire des essais et puis on va par comme ça aller-retour entre de l'écriture derrière un ordinateur et du travail au plateau, on va petit à petit écrire une fiction. Et donc il y aura les 2 personnages, donc Sanora Babb et John Steinbeck, mais aussi on invite autour de la table Dorothée Lange, qui est une photographe qui sera connue notamment pour son cliché de Mother Migrant, qui est en fait un peu l'emblème qui est utilisé pour représenter la Grande Dépression, mais qui est très controversée en fait, parce que la dame qui a été prise en photo, elle s'est toujours sentie humiliée par cette photographie. Or, elle le prend parce qu'elle a envie d'aider, elle a envie de montrer ce qui se passe. Donc voilà, il y a tout ça qui est très intéressant. Et alors, il y aura un 4e personnage qui sera Tessie, la personne qui va servir pendant le dîner. Et moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait cette personne qui fait pendant que les autres parlent. Voilà. ce sera pas un espèce de débat philosophique ou artistico-centré, mais plutôt... un dîner plutôt grinçant, vivant, animé, où on a envie justement de travailler aussi autour de toute cette culture du dîner, qui est un lieu où on doit briller, où peut-être on n'a pas forcément envie d'être là, où on doit respecter certains codes, mais finalement ça peut vite déraper. Et puis je trouvais intéressant aussi parce qu'un dîner, y a de la nourriture à table, et avoir de la nourriture à table quand on parle d'agriculture, voilà, ça m'intéressait aussi.
Et quand tu dis donc ce sera un projet d'écriture de plateau, etc. On répète, hein, tu viens présenter ce projet, donc en parler. Mais je suppose que les comédiens et les comédiennes sont déjà choisis. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des embryons de repas?
Ben, alors, pas vraiment, parce que on a vraiment fait 4 semaines de recherche la saison dernière grâce à une bourse de recherche qu'on a eue de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on a plus, on a cherché autour. Et après, il y aura sans doute certaines choses qui vont chercher, mais on n'avait pas encore vraiment cette idée de dîner qui arrivait en fait à la fin. Et qui est un peu le projet pour l'instant qu'on fantasme et sur lequel on a envie d'approfondir. Et je peux peut-être juste citer les 4 interprètes, qui sont Alan Bertin, Marie Devroux, Irène Berryer et Margot Knittel.
Et quand on fait un spectacle, donc quand même artistique, un objet artistique, et justement quand on vient d'un monde d'agronomie, qu'est-ce qu'on a envie d'impulser, enfin, à quel endroit on a envie d'agir quand même, et comment on peut agir dans ce type de spectacle. Est-ce que tu parlais des algues vertes et de, je ne me souviens pas du nom du deuxième
champ de bataille.
Voilà, donc c'est plutôt du côté de la BD ça, mais c'est aussi un objet artistique. À quel endroit tu penses que ça fait levier en fait, et à quel type de public ça s'adresse, et quels seraient tes rêves en fait pour quand ce projet sera là, vraiment, plus sous forme d'ébauche de projet, mais vraiment concret, sous forme de repas. Quel est le public dont tu rêves? Quel est éventuellement un tour de quel lieu, dans quel lieu tu voudrais inscrire ce projet? C'est bien que c'est un peu tôt peut-être pour le dire, parce que parfois aussi il y a la difficulté de on va où, où on nous invite, où c'est possible, où la scénographie fait que, voilà. Mais dans l'absolu, ce serait quoi le parcours?
Moi, j'aimerais que ce soit un spectacle qui parle autant aux personnes qui n'y connaissent absolument rien en agriculture et à la fois aux personnes qui sont actives dans le secteur. Et moi, mon rêve, mon fantasme, ce serait d'aller carrément jouer dans les cours des fermes et d'avoir un public vraiment d'agriculteurs et d'agricultrices. Et je pense que pour eux, ça peut être un peu un exutoire, justement, de faire un spectacle qui soit plutôt tourné sur l'humour des personnes, finalement, qui parlent à leur place.
Donc sur qu'on arrête de parler à leur place et de se moquer en fait, de ces gens-là un peu.
Un petit peu, mais en même temps, et en même temps en interrogeant nos propres, parce que c'est aussi une manière de se mettre en question soi-même, que j'ai envie de pousser.
Et est-ce que tu penses, parce que c'est quelque chose que tu as dit, que c'était une question que tu avais toujours eue, de comment on prend la parole finalement de ces gens qui n'en ont pas? Est-ce que tu dirais que tu as résolu, je mets la réponse dans la question, mais tu peux dire non, mais que tu as résolu cette question-là en décidant d'en faire un spectacle ou pas du tout?
Non, je crois que je la résoudrai jamais, mais en tout cas, je cherche autour de ça. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler et de creuser.
Et peut-être aussi dans l'échange que tu auras avec les personnes qui viendront voir la présentation du projet.
Oui, tout à fait.
Et toi, tu le présentes plusieurs fois ou c'est une présentation?
Alors, ce sera une représentation, le public en tout cas, le 10 septembre à 19h. Sinon, on a la journée. En fait, on a une journée qui est dédiée vraiment
aux professionnels.
Mais
en
qui est
amorce,
déjà,
Voilà. Et j'ai envie de faire le lien, on reviendra sur ton projet par la suite, mais avec l'humour qui apparemment est chez toi, et je pense, Damien, dans ton projet, il y a aussi de l'humour.
Oui, bien sûr. De l'humour, oui. Il y a un metteur en scène français qui s'appelle Sylvain Creusot et qui dit souvent de ses spectacles, je crois, que c'est une difficile comédie. Alors, je ne sais pas exactement ce que lui entend par là, mais moi, ce que j'entends par là, c'est que, c'est un peu le principe de nos métiers, quoi, de faire les bouffons, quand même, je veux dire. Mais c'est difficile, enfin, je veux dire. Aujourd'hui, clairement, c'est difficile, et c'est aussi l'origine de ce que je fais là, disons. Comment on fait, en gros, comment on fait pour continuer à être vivant, à pas sombrer dans des passions tristes, quand tout est là pour sombrer, quoi. Mmh. Tout est là pour sombrer, comment on fait pour s'appuyer sur ce désespoir pour rebondir dessus, quoi, en gros. Et c'est ça l'objectif du projet, en tout cas, c'est pouvoir nommer déjà cette chose-là, ce désespoir-là, qu'on peut ressentir pour un milliard de raisons, mais notamment, disons, juste l'environnement, déjà. Enfin, pour moi, c'est assez important. Et c'est assez, comment dire, puissant dans ce qu'on est en train de vivre comme transformation à l'échelle, disons, mondiale, sociétale, politique, familiale, enfin, à toutes les échelles, en fait, ça a une influence énorme sur comment on pense nos vies, comment on les organise, etc. Et je crois qu'on est vraiment encore loin de la conscience du truc. Enfin, on est vraiment en retard, quoi. Et ça peut mettre des petits coups au moral. Ça peut quand même faire de dire, attends, pourquoi je continue à faire ça. Et voilà, le projet que j'avais envie de faire, c'était de prendre d'en faire une histoire, disons, de faire l'histoire de quelqu'un qui a définitivement sombré, c'est-à-dire qui a préféré ne plus que de continuer, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est tué, disons-le, et donc qui a préféré partir parce qu'il ne voyait plus une façon digne de continuer à vivre dans ce monde-ci. Voilà.
Alors, je propose qu'on revienne sur la genèse du projet après une petite pause musicale.
Bien sûr.
Qui est ton choix aussi. Et alors, je ne savais pas lequel choisir. Parce que tu m'as dit hors antenne, je te laisse choisir. Je ne savais pas lequel choisir. Sauf que tu m'as demandé Rêverie de Debussy. Et tu m'as dit, si possible, Pascal Roger.
Oui.
Et je trouve que ça mérite une petite explication. Pourquoi précisément cette version-là ?
Écoute, vraiment, mon explication, elle va être très simple. Parce que vraiment, je ne connais pas cet interprète. Mais par contre, on me l'a fait écouter quand je cherchais des sons. J'ai demandé à une amie de me trouver un dernier parce que j'hésitais entre plusieurs machins. Et elle m'a sorti Rêverie de Debussy, que je connais pour le coup très bien, mais que je n'avais pas pris. Et avec cette interprétation, et je l'ai trouvé, enfin vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, je l'ai trouvé vraiment bien, parce que je sais pas, c'est pas pour faire le type, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu aussi bien jouer. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mieux entendu ce jour-là, je sais pas, mais c'est tout pour les raisons. J'en ai pas plus.
Et donc on va écouter ceci, et j'espère très fort que j'ai choisi le bon, que Pascal Roger n'en a pas enregistré 10, et que j'aurais choisi le premier alors que c'est le 9e qui était très bon.
Non.
Mais donc on écoute Rêverie de Debussy par Pascal Roger. Thank you.
Et voilà, c'était Rêverie de Debussy par Pascal Roger, un choix de Damien Trapletti, parce qu'on est toujours là en studio pour parler de Liège. Mmh. On est sur Radio Campus, la radio de l'Université Libre de Bruxelles, à Bruxelles donc, sur le 92.1 ou sur radiocampus.be, mais là aujourd'hui c'est Liège qui vient à Bruxelles pour parler de ce festival Factory qui se déroulera à partir du 7 septembre, un festival sur les formes émergentes, les artistes émergents. Et vous êtes, Tiffaine et Damien, tous les deux là pour nous parler de vos projets, l'un en création, l'autre en présentation de projet à ce Festival Factory. Et avant cette pause de Debussy par Pascal Roger, on parlait de ton projet à toi et on faisait le lien avec le projet de Tiffaine qui est en début de chemin, mais qui parle avec humour de ces agriculteurs dont on vole parfois la voix, dont on vole souvent la voix, et on parlait de ton projet à toi, Damien, qui mêle aussi l'humour, sans doute qu'il y en aura, mais l'humour, et tu devais nous faire la genèse, puisque toi tu es en troisième partie de ce chemin que propose le Factory, c'est-à-dire il y a une présentation de projet, il y a une étape de travail et il y a une création, toi c'est la création et tu avais déjà fait une présentation d'étape de travail. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la genèse, donc vraiment le tout début de comment tu as eu l'idée de faire ce spectacle? Donc tu expliquais en tout début d'émission que tu étais comédien, que tu avais travaillé pour d'autres, dans des mises en scène d'autres, dans des projets d'autres, des projets de collectifs, etc. Là c'était ton premier seul en scène et que c'était quelque chose qui traitait de l'imminence de fin du monde, mais avec humour.
Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est pas. Mais peut-être ce qui va expliquer tout, c'est simplement ça. C'est qu'en fait, j'ai un ami qui est mort. Mmh. Et à ce moment-là, c'était pile tombé au moment. C'était encore Covid, machin. Et c'était pile tombé au moment où, avec mes anciens comparses, mes vieux amis avec qui je faisais du théâtre depuis longtemps, en groupe, etc., on se disait, bon, on va chacun de nos côtés, on va faire d'autres choses, etc. Et donc, je me suis retrouvé seul face à cet acte éminemment solitaire.
Puisqu'il s'est donné la mort.
Ouais, c'est ça. Et donc, ça m'a directement posé la question à l'envers, quoi. C'est-à-dire, ah tiens, pourquoi on en arrive à préférer ne plus que de continuer. Et en fait, il y a un milliard de raisons, et j'ai préféré le prendre comme ça, c'est-à-dire comme un acte, en fait, non pas seulement, enfin, évidemment triste, évidemment tout ça, évidemment lourd, triste, tout ça, mais d'abord comme un acte de résistance, en fait, comme un cri de résistance ultime, radical, tout ce qu'on veut, bien sûr, horrible, terrifiant, tout ça, mais de revendication,
c'est-à-dire... Ouais, comme de prise de position.
De prise de position définitive, c'est-à-dire vivre comme ça, non merci, et c'est punt. Et à partir de là, je me suis dit, bon, vu que je suis tout seul, comment traiter ça à part comme ça, c'est-à-dire à travers un seul en scène, à travers ce que moi, comme acteur, je peux me poser comme question sur un plateau, et comment je peux commencer à manipuler cette matière hautement inflammable, quand même, autant personnellement que professionnellement, puisqu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et j'ai commencé à travailler comme ça, à écrire, disons, une histoire autour des personnages, amis, famille, qui restent après un acte pareil et quelles questions ils se posent et par quoi ils passent, mais dans une forme de comédie. Et donc, comment faire comédie, ou comédie pas grinçante, pas comédie noire, mais comédie humaine, en fait, avec tous les épanchements, avec la souffrance, avec la tristesse, mais comment on peut faire quand même, comment on peut se réunir, en fait, tous ensemble au théâtre, autour de cette individualité qui a préféré disparaître. Est-ce que c'est pas déjà ça une réponse à l'isolement, à ce qui amène à ça, à cette revendication définitive?
Tu veux dire, se retrouver ensemble, c'est une réponse à...
C'est une réponse
au questionnement qu'offre cette mort brutale.
Exactement. Exactement, pour moi, c'est une des premières, oui. C'est une des premières, et donc on suit, pendant toute une nuit, on suit la mère, l'ami, voilà, différents personnages, la productrice, parce que, évidemment, ce mort est un acteur qui a arrêté, à un moment donné, de croire en ce qu'il faisait, et donc on suit toutes ces personnes qui étaient proches de lui, plus ou moins proches, entretenir des rapports ensemble et se poser des questions... sur ce qu'il a amené au geste et ce qu'ils peuvent bien faire de ce geste, en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent s'appuyer dessus, sur ces patients tristes, comme je disais tout à l'heure, pour rebondir dans la réalité et continuer à espérer en demain.
En fait. Ça, donc, c'est la réponse en action de vie,
ouais,
à ce geste-là.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comment on s'inspire, comment on rebondit là-dessus, sur ce genre de geste, comment on en fait une force, en fait. Comment ça peut être aussi une force, en tout cas, ça c'est le présupposé du spectacle, c'est que les proches en font une force, décident d'en faire une force.
Et donc c'était évident que ce serait un seul en scène dès le départ ? Même si vous êtes quatre dans l'histoire, comme tu disais.
On est plus que ça même. J'ai oublié la costumière Esther Denis et la directrice technique Valentine Doreau et Michel Delving qui est venu aussi donner un coup de main. Tu vois, on est beaucoup. Mm-hmm. On est beaucoup. Oui. Je savais que c'était trop proche de moi. Enfin, je savais que c'était une matière très, très personnelle aussi et donc que je devais m'y coller. Et que je devais voir comment moi... En plus, je n'avais jamais joué tout seul. Donc, ce qui n'a rien à voir avec jouer avec des partenaires. Et donc, je me suis mis à chercher comment... Quel était mon style, disons, là-dedans. Et comment je pouvais faire voir tout ça. Ou, disons... poser les questions que ça me posait. Disons, les partager un peu, quoi.
Et donc, tu interprètes tous les rôles.
Ouais. Mais ça ressemble plus à c'est ça, la mère, l'ami, le collègue, la directrice, il y a un voisin aussi, il y a une évocation d'un célèbre et grand acteur italien. Il y a des personnages. Et tout ça tourne autour aussi du théâtre ou d'un certain style de théâtre. Le théâtre populaire, en fait, parce que jouer tous les... C'est vraiment pas nouveau, quoi, qu'un acteur seul joue plusieurs personnages. J'invente rien là-dedans, mais c'est une forme populaire qui existe depuis très longtemps.
Donc, aux détracteurs qui diraient c'est soit une paresse, soit c'est pour que ça coûte moins cher d'être seul en scène, c'est des choses qu'on peut entendre de temps en temps, on entend bien que c'est tout à fait faux, que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et c'est pas une mode aussi. Ce qu'on pourrait dire, c'est une mode. C'est pas une mode, ça existe depuis toujours. Je répète ce que j'entends, hein, qu'on est nombreux pour un seul en scène,
ouais.
Donc ça ne coûte pas nécessairement moins cher,
ouais.
et que oui, on n'est pas seul. En fait, on n'est pas seul.
Alors je suis d'accord et en même temps pas, parce que ça va dépendre de tout, en fait. C'est moi, j'ai choisi de m'entourer de gens parce que je voulais revendiquer un travail d'acteur et que moi, mon endroit, c'est le plateau et que il faut d'autres personnes qui ont d'autres compétences pour m'aider là-dedans, c'est-à-dire à regarder, à mettre en espace, à mettre en lumière, tout ça. Si on prend le stand-up, ils sont deux, hein. Je veux dire, il y a quelqu'un qui éclaire et qui fait aller le micro, et il y a un micro et c'est tout. Donc ça dépend de quoi on parle quand on dit seul en scène, parce que ça regroupe énormément de styles différents.
Et non, mais ceux qui portent l'étiquette, ce que tu dis toi-même, c'est du stand-up, ceux qui portent l'étiquette théâtre.
Ah,
mais bon, après, c'est peut-être un débat un peu inutile
est-ce que
le stand-up, c'est du théâtre ? Est-ce que
le théâtre seul en scène est
du stand-up ?
Je sais pas. En tout cas, pour moi, le stand-up, ça a à voir avec... Il y a un micro et il y a quelqu'un qui parle dedans. Et il y a que ça, disons. Mais bon, je suis pas du tout expert là-dedans, mais... est-ce que ça veut... Oui, voilà, je sais pas comment rebondir.
Mais alors, on va peut-être... Parce que toi, Tiffaine, tu expliquais que ça allait être une écriture au plateau. Mm-hmm. Et c'était ça aussi, je me disais comment... Donc, c'est toi qui as écrit le texte, puis tu l'as agencé en impro, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Non, c'est l'inverse. En fait, j'improvise longtemps.
Okay.
J'improvise longtemps, là encore, j'improvise. Et justement, je disais à Tiffaine tout à l'heure, là, ça m'angoisse, ça devient un texte. Parce que je n'ai pas l'habitude, je préfère les impros, etc. Donc là, maintenant, évidemment, ça devient un texte, donc il faut redire toujours les mêmes choses, etc. Alors que ça fait 2 ans que je dis un peu ce que je veux, quand je veux, et qu'on s'amuse comme ça à évoquer différentes possibilités de situations pour constituer un ensemble, quoi.
Et ça devient un texte parce qu'il y a cette issue et que c'est plus possible de le faire dans une sorte d'improvisation. Et pourquoi, à quel moment on se dit bon ben non, on arrête de fonctionner en impro et on fixe les choses? Est-ce que c'est une contrainte technique? Parce que il y a des lumières qui doivent sortir à un moment, il y a des machins. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que c'est demandé? Est-ce que dans la production on demande que ce soit la même chose? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on se dit, voilà, ça doit devenir un texte fixé?
Parce qu'à un moment donné, on doit raconter quelque chose et on doit savoir ce qu'on raconte, je crois. Un truc comme ça. En tout cas, pour moi, je dirais ça. C'est-à-dire que le texte, pour moi, c'est pas quelque chose que je me contredis directement par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est pas quelque chose que je vais répéter tous les jours de la même manière, etc. Je vais oublier des trucs, je vais transformer des phrases, je vais continuer.
Sauf que c'est pas tout à fait de l'improvisation complète, quoi.
C'est ça. Et je vais continuer à improviser un peu, si tu veux. Tu vois, dans la manière de dire et dans ce qui est dit, mais grossièrement, en fait, le texte aujourd'hui, c'est plus un témoin de la répétition. C'est un témoin du processus, en fait. C'est comme un concentré de toutes les archives, de toutes les improvisations qu'on a choisi de garder pour raconter l'histoire à laquelle on est arrivé, déjà. Voilà. Je dirais ça. C'est comme un rappel, une archive. Mais c'est pas...
C'est pas figé dans le marbre.
C'est pas figé dans le marbre, c'est pas les mots sacrés, etc. C'est plus... C'est l'inverse, en fait. C'est puisque c'est populaire, c'est les mots qui viennent juste pour qu'on se souvienne de l'action. Qu'on se souvienne ce qu'il y a à faire sur le plateau. C'est plus comme ça. D'accord. Le texte, en tout cas le mien.
D'accord. Alors je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Et là, c'est moi qui choisis. On va écouter La Rousseau. J'avais envie d'entendre La Rousseau. Enfin, c'est moi qui choisis. C'est un choix de Tiffaine. Mais je me suis dit, ouais, on va écouter ça sur Radio Campus. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi La Rousseau.
Eh ben oui, tout à fait. Parce que ça n'a rien à voir avec...
A priori, mais
en fait, ça vient d'une réflexion de Rose Lamy dans son roman Ascendant Beauf.
Est-ce que tu peux en dire un petit mot de ce roman d'ailleurs? Peut-être on a le temps.
De ce livre-là, c'est un essai en fait autour du mépris de classe. Et en fait, elle est journaliste et elle se retrouve en fait elle vient d'une classe plutôt populaire et elle se retrouve à Paris, je pense, à faire des études et donc à plutôt évoluer dans des milieux
intellectuels,
etc. Et elle se retrouve un moment à danser. Très très fort sur une musique de Daniel Balavoine et en fait tout le monde autour se rit un peu de ça en mode ah ouais non Daniel Balavoine c'est vraiment voilà et elle est là mais en fait ça enfin moi j'adore Daniel Balavoine enfin on écoutait ça tout le temps dès qu'il y avait des et donc elle commence à se poser des questions et donc elle triture autour de ça et donc à un moment elle évoque la chanson Tu m'oublieras de La Rousseau qui a été reprise par Juliette Armanet qui en a fait une reprise qui est par ailleurs magnifique. Mais elle se dit, tiens, tout d'un coup, cette chanson est écoutable. En fait, on a le droit de l'écouter parce qu'en fait, c'est au piano, c'est une voix seule, il y a quelque chose d'un peu... Et tout d'un coup, on entend le texte et tout. Et en fait, elle dit, mais pourquoi est-ce que la version de La Rousseau, on ne peut plus l'écouter? Et en fait, c'est un peu une honte de l'écouter. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ça. Et moi, j'adore. Enfin, voilà.
Oui, moi, je pense. Mais si vous voulez me faire plaisir, mettez voyage très, très fort. Et peut-être, vous me verrez monter sur une table. Oui. Voilà. Bon, on va écouter La Rousseau. Tu m'oublieras, donc. Et on parlera de production après, pour finir l'émission. Donc, Tu m'oublieras, La Rousseau. C'était La Rousseau, Tu m'oublieras, une petite incursion dans l'univers de Tiphaine, mais aussi dans l'univers de Rose Lamy, Ascendant Beauf, qui est un bouquin qu'on recommande. Hein. Voilà. On est toujours dans le studio de Radio Campus, la radio de la communauté universitaire de l'Université libre de Bruxelles, sur le 92.1 radiocampus.be. Et on est toujours là pour parler de Factory, le festival des artistes, des créations émergentes. Et j'avais envie de parler avec vous deux pour terminer cette émission, donc Tiphaine et Damien. D'un côté, moi, on a parlé du contenu de vos spectacles, on a parlé de ce festival, mais de tout ce qui est production-diffusion. Parce que vous êtes finalement à deux endroits. Toi, Tiphaine, tu commences un projet, donc c'est plutôt la production qui va être importante. Damien, tu présente un travail qui est fini, ça va être la diffusion qui va être maintenant mise en œuvre. Et j'avais envie qu'on reparle peut-être un peu de ça, d'éventuellement des plus grosses difficultés que vous voyez arriver. Est-ce que c'est vous qui prenez tout en charge ou est-ce que vous déléguez ces parties-là? Est-ce que c'est important de déléguer? Est-ce que c'est important d'avoir quand même un œil sur ces parties du métier? Et peut-être d'abord dire très très de façon très très succincte ce que c'est exactement la production, la diffusion. Je sais pas si vous avez envie l'un et l'autre de prendre l'un ou l'autre ou les deux.
Du coup moi je vais commencer avec la production puisque ça arrive avant la diffusion. Oui. Même si on dit qu'il faut déjà penser à la diffusion aux deux, oui. Quand on est en production. Mais donc la production c'est toute la partie financière du spectacle. Donc voilà, il faut avoir du soutien pour pouvoir faire un spectacle. Ça demande beaucoup d'argent. C'est ça. C'est un peu comme dans beaucoup de choses, le nerf de la guerre, comme on dirait. Je ne sais plus c'était quoi la question.
Les difficultés que tu rencontrais ou que tu crains.
Les difficultés, c'est qu'évidemment, il y a énormément de porteurs et de porteuses de projets, qu'il y a de moins en moins de budget. Que quand on est une artiste émergente, en fait, on ne peut pas prouver la valeur de ce qu'on fait. On n'a pas de vitrine déjà établie. Et donc, voilà, c'est un peu sur base de confiance que les gens doivent s'engager. Et comme les budgets sont restreints, c'est sûr que c'est plus facile d'aller vers des artistes qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé, plutôt que des nouvelles personnes. Donc voilà, donc en tant qu'artiste émergent, c'est pas facile. Et ça demande. Moi là pour l'instant, je fais toutes les casquettes pour mon projet. Et c'est vrai que c'est fatigant parce qu'en fait, il faut être sur tous les fronts en même temps. Et parfois, on aimerait se concentrer juste sur le côté artistique. Oui. Mais après, voilà, ça fait partie du métier, ça forme aussi, c'est bien.
Et puis peut-être que quand on en parle, quand on parle de son projet soi-même, c'est autre chose que quand c'est un producteur ou une productrice.
Oui,
extérieure.
Après, je pense que parfois, on a peut-être du mal aussi à en parler parce qu'en fait, on a la tête dans le guidon et qu'on a parfois du mal à avoir ce recul que peut-être certains auraient à en parler. Et puis aussi, c'est des endroits d'échange, en fait. La production peut aussi être impulser des choses intéressantes au niveau de l'artistique. Et ça peut être vraiment un échange. Et quand on est un peu toute seule à faire toutes les casquettes, on tourne un peu toute seule dans sa tête, quoi. Donc voilà. Donc c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est un confort incroyable.
Et toi, Damien, peut-être parler de la diffusion?
Écoute, je veux bien en parler, mais moi, je vais la découvrir, figure-toi.
Ouais. Et sur des précédents spectacles,
jamais fait, mais je suis en train de. J'ai déjà commencé à y travailler, et pour ça, je me suis quand même.
Donc peut-être redire ce que c'est, ça paraît évident, mais peut-être
oui,
rappeler.
Oui, la diffusion, c'est la vente du spectacle, voilà. En fait, c'est ça.
Donc c'est des sous, mais qui viennent après,
C'est de la vente de spectacle, et après on peut, je crois, demander des aides à la diffusion, etc. Mais ça, j'ai pas encore creusé cette affaire. Il y a aussi des boîtes de diffusion qui prennent des spectacles, qui proposent à des spectacles de venir chez eux et eux représentent des spectacles. Il y a plusieurs à Bruxelles, je pense à Bemous Papam par exemple, qui est une boîte de diffusion assez connue. Il y a Bloom Project, enfin voilà, il y en a quelques-unes Module. Comme ça. Comment
Module.
Module, effectivement, Module, j'oubliais. qui sont des structures qui ont pour but de, voilà, de vendre des spectacles, de les faire connaître dans des circuits que eux ont déjà souvent constitués, etc. Oui, donc voilà, la diffusion, je ne sais pas, je te dirais, ben là, pour le coup, on peut revenir sur comment est fait Factory, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Mmh. C'est que bah, va y avoir une journée pro, qu'on appelle la journée des professionnels. C'est le 7, c'est lundi prochain. Et c'est le premier jour, évidemment, comme ça, au moins, après, c'est passé, quoi.
Et ça veut dire que toi, tu joues deux fois
ou... Moi, je joue deux fois. Je joue le lundi, puis je clôture le festival le 12. Mmh. Voilà. Et donc la journée des professionnels, ben, je pense que c'est entre 50 et 80 lieux différents, principalement en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui viennent voir les présentations de projets, les présentations d'étapes et le spectacle que je présente. Et donc ben, c'est une porte ouverte, enfin c'est assez rare d'avoir en fait, accès à autant de professionnels en même temps. Donc là, en ce qui concerne la diffusion, c'est vraiment parfait, quoi, mmh. disons. On pouvait rarement espérer mieux que ça. Et donc, on va voir comment ça se passe.
Et pour tous les deux, pour le mot de la fin, on a déjà évoqué pas mal de choses. Mmh. Et sur vos espoirs et sur vos craintes. Mais s'il y avait vraiment un espoir, une crainte que vous avez tous les deux. D'abord la crainte et puis l'espoir, parce que c'est quand même... On va terminer sur quelque chose un peu positif. Tiffaine
Moi, ma crainte, ce serait d'avoir le même destin que le roman de Sanora Babb, eux dont les noms sont inconnus. C'est-à-dire que ça termine, que le projet termine dans un tiroir et ne...
Ou soit repris par quelqu'un d'autre, ce serait pire.
Ou soit repris par quelqu'un d'autre, non.
Voilà. Garde bien tes notes.
Oui, voilà. Mais voilà, mais donc oui, que ça n'ait pas lieu, quoi. Enfin, voilà.
Et ton espoir ?
Et mon espoir, c'est que ça aille.
Dans les cours, dans des cours de ferme.
Oui, ça, ce serait incroyable. Ce serait super.
Et toi, Damien ?
Bah, de crainte, je sais pas, je... Tout. Enfin, ouais, potentiellement tout. Et d'espoir... Non, je me réjouis. Je me réjouis de... Ça fait... En fait, c'est ça que je veux. Voilà, moi, je peux terminer par ça. Ça fait... C'est 5 ans. C'est 5 ans de vie à un projet. Plus ou moins, en moyenne, quoi, quand on fait tout seul. Donc, à la fois, bah, je suis... C'est comme après, quand vous terminez un roman que vous adorez. Vous n'avez pas envie de le finir et en même temps, vous êtes ravis de le finir. Mais c'est exactement les deux qui cohabitent. De la même manière.
Voilà, on terminera là-dessus. Et on encourage évidemment tous les auditeurs bruxellois ou autres à courir à Liège du 5 au 12.
Du 7 au 12.
C'est parce que j'ai envie que ça vienne plus vite. Du 7 au 12 septembre à la caserne Funk. C'est donc le Factory Festival. Donc c'est une création. 6 étapes de travail et 5 présentations de projets, voilà. Avec une journée de pro qui est réservée donc aux professionnels le 7 et puis un festival tout public. Et toutes les informations de toute façon sont sur factoryfestival.be, factory avec un Y. Merci à tous les deux et puis bon vent, hein.
Merci. Merci à toi.
Merci à toi.
Et à la semaine prochaine.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.